Québec.
Collabo, chronique, entrevue, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie, j'arrive par Gabriel Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à Chérie 94.3.
Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada? Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada.
De la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Pour tout savoir sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, Chiz t'offre le meilleur de l'information tous les midis. Les affamés, ça commence maintenant. Bon appétit.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3 pour votre émission d'actualité du midi. Les affamés, c'est Guillaume Bédard qui vous parle au micro en ce mercredi 21 avril 2021 en compagnie de l'incomparable Laurie Bouffard.
Je me demandais qu'est-ce que t'allais dire ce midi parce que je me suis dit, là, après une dizaine d'épisodes, là, il doit être à court de mots, mais non, jamais.
Jamais à court de compliments. Écoute, Laurie, toujours content d'être avec toi ce midi parce qu'on a plusieurs actualités, on a quand même plusieurs dossiers très chauds dont il faut qu'on parle ce midi. C'est sûr, on va parler d'actualité coronavirale, mais on a également la loi 21 qui s'est rendue à la Cour supérieure du Québec. Un jugement a été rendu qui divise le Québec en deux, littéralement. Faut qu'on en parle. On a également le procès du meurtrier de George Floyd. C'est terminé. Il a été rendu coupable du meurtre non prémédité. Ça a fait beaucoup réagir, ouais. Même jusqu'à Rimouski, ici même au Québec. Écoutez, on vous parle de tout ça, mais on vous parle également de choses un petit peu plus proches de chez nous. On vous parle du marché immobilier à Québec. On vous parle également de transports en commun dans la vieille capitale. On vous parle de beaucoup de choses ici aux Affamés à Chiz 94.3. Mais avant toute chose, on va commencer comme il se doit avec, en chansons et en musique, avec Laurence Anne qui va nous interpréter la chanson « C'est un virus ». On vous revient tout de suite après avec vos actualités coronavirales.
Se voit à l'endroit.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bidard qui vous parle en compagnie de Laurie Beaufort. Et on va plonger directement dans notre sujet d'actualité préféré. On en parle à tous les jours.
Préféré, je ne sais pas, par exemple.
On va parler de nos actualités coronavirales. Et on commence avec les chiffres du jour. Donc, Québec signale aujourd'hui 1217 nouveaux cas de COVID-19 et une forte hausse des hospitalisations dans la province. Et on en rapporte 716. On a maintenant 716 hospitalisations à travers la province, soit une augmentation de 22, dont 178 aux soins intensifs, donc une augmentation de 1. 22 nouvelles hospitalisations, c'est pas une bonne nouvelle. 1217 nouveaux cas de COVID-19, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais.
C'est pas si pire
que ça, considérant que la semaine dernière, on annonçait des chiffres dans les 1500, 1600. On s'est rapproché du 1700 nouveaux cas. Là, avec 1200, on est un peu plus bas. La troisième vague semble se calmer un petit peu, mais c'est pas... On touche du bois.
On touche du bois tout le temps ici.
On touche beaucoup de bois. Mais c'est pas... C'est peut-être pas suffisant. Ce sera peut-être pas suffisant. Il faut continuer à respecter les mesures de distanciation. Il faut continuer à respecter les mesures sanitaires. Et si vous pouvez, il faut aller se faire vacciner. Beaucoup de nouvelles vaccinations. On a eu 55 000 nouvelles doses administrées dans les 24 dernières heures. C'est beaucoup, c'est important, c'est très important. Mais il faut pas... Dans le fond, il faut continuer à ce que les gens...
C'est important.
C'est très important et il faut que les gens continuent à s'inscrire. Mais c'est ça qui commence à être un petit peu plus compliqué, puisque à partir d'aujourd'hui, les gens de 45 ans et plus ont le droit de s'inscrire au sans rendez-vous pour aller chercher leur vaccin AstraZeneca. Mais je sais pas si tu as vu les images comme moi ce matin, mais il y avait du monde.
Des files d'attente, là, j'ai lu quelques articles, dont un sur La Presse, qui vient tout juste de La Presse canadienne, qui dit que même avant l'aube, les gens faisaient la file pour recevoir leur vaccin. Surtout dans les centres de Montréal, donc le Stade olympique, le Palais de congrès, il y avait beaucoup de gens. On voit que c'est une bonne nouvelle, parce que dans les dernières semaines, on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de sans-rendez-vous, mais beaucoup de places qui n'étaient pas comblées. Donc, c'est une bonne nouvelle ce matin. Les 45 ans et plus sont au rendez-vous. On parle, en fait, pour une petite idée là, de la population de 45 ans et plus, on parle de 800 000 personnes qui seraient éligibles. Quand même un gros nombre.
Oui, c'est à peu près 10 % de la population du Québec. Donc, si on est capable de faire vacciner ce 10 %-là avec le vaccin AstraZeneca, ce serait vraiment pas si mal. Et les réservations pour aujourd'hui sont déjà pleines. Elles étaient pleines, en fait, ce matin à l'apparition du soleil. C'est Émilie Pelletier dans Le Soleil à 10h.
10h, tout était plein déjà pour aujourd'hui.
10h, tout était plein déjà dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. À la grandeur des deux territoires, AstraZeneca était complètement réservé. Les petits tickets, les petits billets
pour... Oui, billets à l'entrée. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle parce que on a entendu beaucoup parler aux nouvelles en fin de semaine que Chaudière-Appalaches, il y a quelques endroits que les gens étaient moins au rendez-vous.
Oui, c'est ça.
Dans la Beauce, là, il y a moins de gens qui voulaient y aller et d'autres semblent que c'était plein dès le matin. Donc, voir ça, je suis contente de voir que la population de Chaudière-Appalaches sont au rendez-vous, les 45 ans et plus. Ça va bien aller, en tout cas.
Oui.
Pour une fois, ça va un peu mieux. La population peut plus se faire vacciner.
Effectivement. Et on a même plusieurs CHSLD qui vont avoir reçu leur deuxième dose bientôt.
Oui.
Parce qu'on sait que là, on s'inquiète du nombre de premières doses, d'essayer de couvrir le plus possible l'ensemble de la population du Québec avec une première dose. Mais même si tu as reçu une première dose, les statistiques sont que tu peux quand même être infecté par la COVID-19 et la transmettre. Tu ne peux pas, toi, avoir des effets très néfastes, mais tu peux quand même être un vecteur de propagation. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment beaucoup de la deuxième dose et il pourrait y avoir certains CHSLD qui la reçoivent bientôt, c'est ce que je comprends.
Oui, en fait, le gouvernement a annoncé que d'ici le 8 mai, donc c'est tout prochainement, là, c'est dans quelques semaines, tous les résidents des CHSLD devraient recevoir leur deuxième dose. Donc, on parle à environ 16 semaines après la première dose que tous les résidents vont recevoir leur deuxième dose. Par contre, ça se peut que la plupart qui aient reçu Moderna comme première dose reçoivent en fait Pfizer pour la deuxième dose, parce qu'on sait que Moderna a quelques retards dans les livraisons, mais ça devrait pas poser de problème. Donc, tout le monde devrait être vacciné une deuxième fois dans les CHSLD avant le 8 mai. Bonne nouvelle encore.
Oui, quand même une très bonne nouvelle de pouvoir faire cette combinaison-là de vaccins, ce petit cocktail, être capable de faire ce petit mélange. On va aller dans un autre registre complètement. On va aller en culture parce que à cause de la pandémie, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer cet été, le festival de jazz et les Francofolies de Montréal auront lieu en septembre. Donc deux gros festivals qui sont repoussés cette année.
Petite annonce qui a été faite par l'équipe de Spectra ce matin. Comme tu as dit, Guillaume, les mesures sanitaires sont incertaines. On sait qu'elles ont été prolongées jusqu'au 2 mai. On va voir, ça va peut-être changer après ça, mais l'espoir d'avoir des vrais festivals comme on les connaît, en salle et tout, cet été, c'est moyen. Hein?
Oui, c'est ça. Ça fait réagir. J'entends d'ici Émilie Rioux, l'ancienne animatrice de Chérie, j'arrive, et qui est au Club Critique présentement, qui était en train de rager quelque part en studio à Chiz 94.3.
On la comprend. Donc, l'équipe a annoncé que les Franco devraient se produire du 9 au 12 septembre et suivi du Festival de jazz du 15 au 19 septembre.
Bon. Festival de jazz?
De jazz. Qui c'est moi ce matin? Et la fin de session, là...
fin de session, ça fait ce fort.
On a aussi, pour ceux qui auraient acheté des billets pour les spectacles prévus cet été en salle, ceux-ci seront reportés. S'ils ne sont pas encore reportés, ils seront reportés dans les prochains jours pour 2022. Donc, pour plus d'informations, juste à consulter le site web.
On va rester en culture, mais on va aller en culture populaire.
Oui.
Écoute, culture populaire, le sport télévisé, pour moi, c'est pas du sport, mais, mais c'est de la culture populaire. C'est un jugement que je fais, c'est un jugement que je passe. Écoute, je sais pas si t'avais entendu parler de ça, la Super League.
Moi, je m'y connais tellement pas en sport, là, qu'il y a tellement de ligues. Puis là, le soccer, hein? On s'entend, en Europe, c'est gros. Donc, les ligues, ça se mélange un peu. Mais je pense que t'as plein d'informations pour nous rendre ça plus facile.
Oui, donc, la Super League, donc, en Europe, c'est une ligue de soccer européenne qui devait voir le jour sous peu. Maintenant, c'est parce qu'en Europe, chaque pays a sa ligue nationale de soccer, qui est une ligue majeure, et plusieurs autres ligues mineures. L'équivalent ici, si on fait une comparaison de hockey, avec la LHJMQ, là où jouent les Remparts. Mais il y a également une grande ligue, la Ligue des champions, qui regroupe chacun des meilleurs clubs de tous les pays pour essayer, qui s'affrontent à chaque année. Et en plus de ça, sur le side, pour rajouter à tout ça, t'as l'Euro, où ce sont les pays eux-mêmes qui s'affrontent. Donc, c'est quand même plutôt compliqué, et pour avoir le droit de participer à la Ligue des champions ou à l'Euro, il faut se qualifier. Il y a des processus plutôt complexes de qualification. Et donc, ça veut dire que tu n'es jamais assuré, année après année, de pouvoir participer à ces deux gros tournois qui sont les deux tournois les plus vus, les plus regardés. Donc, certains gros clubs, certains très gros clubs ont eu l'idée de se mettre ensemble pour faire une super ligue où est-ce qu'il y aurait uniquement les gros clubs qui joueraient ensemble. Dans les gros noms qui ont parti ça, on a le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le Juventus de Turin, l'équipe de Chelsea, l'équipe de Manchester United. Donc, 6 clubs anglais, 3 clubs espagnols, 3 clubs italiens, donc 12 clubs au total qui ont décidé, on va faire notre propre ligue pour jouer ensemble. En termes de hockey, là, c'est à peu près comme si le Canadien disait qu'il était tanné de jouer contre Phoenix puis les Ducks d'Anaheim puis qu'il allait juste jouer.
Ils s'en vont avec les meilleurs.
Et puis ils s'en vont juste jouer contre les Bruins puis les Leafs parce que c'est ça que les gens veulent voir.
Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, que les meilleures équipes n'essayeraient plus de se qualifier pour l'Euro et décideraient seulement de jouer contre les meilleurs?
Et c'est à peu près ça. Et l'Euro a dit, ben, les joueurs qui font partie de ces équipes-là, on ne les veut pas à l'Euro si la Super League se passe. Ça commence.
Et la chicane commence à...
La chicane a pogné et la chicane a pogné rare.
Mais voyons!
Tout le monde était fâché, vraiment. Tout le monde était fâché. Mais c'est un peu mort parce que devant une réaction aussi épidermique, aussi violente de la part des fans... Les six clubs anglais ont décidé de se retirer complètement du projet.
Oui, ça fait moins d'équipes si tu te ramasses juste deux, trois à jouer contre l'autre, hein?
Oui, les six clubs anglais ont décidé de se retirer du projet. Les trois clubs italiens se sont retirés. Et l'Atlético de Madrid aussi s'est retiré du projet. Il ne reste donc plus que le Real Madrid et le FC Barcelone dans cette Super League. Donc, ça commence à avoir beaucoup moins...
Ils vont s'ennuyer, je pense.
Oui, ils vont s'ennuyer un petit peu. Donc, ça semble être un projet qui est avorté dans l'œuf directement. C'est parti d'une idée que probablement que certains trouvaient très bonne, mais je pense que les fans de soccer aiment voir leur petite ville avoir une chance, avoir un espoir.
Ouais, c'est ça.
Ils sont attachés quand même.
En plus qu'en Europe, là... C'est un autre niveau, le soccer. Là. On pense que nos parents sont fans de hockey, là, les papas, là, mais le soccer, pour avoir été en Europe, là, c'est un autre game. Là. Les gens sont très attachés, très émotionnels.
Oui, c'est très, très... C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On va prendre une petite pause musicale.
Que tu nous proposes?
Écoute, on va aller écouter des nouveautés, tant qu'à être ici, à Chiz 94.3. On va aller écouter une nouvelle chanson des Louanges. Je sais que t'aimes bien ça. Donc, on va aller écouter Pigeon par les Louanges et on vous revient tout de suite après la pause avec des actualités juridiques. On vous parle des conséquences du jugement sur la loi 21.
Une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de... Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. Je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Me cède parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Baissève parfois sa part en ton mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage? Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge? Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. Laisse aller le post-it. Passer go réclame. Par ici les papiers, repêcher les vues. Pigeons, s'il est trop
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. On écoutait la nouvelle chanson des Louanges, Pigeon.
Très bon.
On était capable de la chanter un petit peu le refrain à la fin.
Excellents chanteurs. Écoute, dû laisser nos micros on.
Ça aurait été hilarant. Et tu m'as dit qu'il était passé à Star Academy en fin de semaine.
Oui. Très heureuse. Ma mère s'est plus dit c'est qui? Avec un petit look là, aux louanges, là, les petits cheveux rosés, rouges. Excellent numéro pour vrai. Il y a peut-être quelques matantes qui se sont demandé ce qui se passait. Personnellement, j'ai beaucoup aimé.
excellente critique. On va aller. Plus sérieusement, on va aller avec des nouvelles juridiques. Donc, on a eu hier le résultat d'une très longue démarche, la contestation de la loi 21 en cours. Bon, qu'est-ce que c'est que la loi 21 pour ceux qui ne s'en rappellent plus? C'est la loi sur la laïcité de l'État. C'est la loi qui a été adoptée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui interdit à tous les fonctionnaires de l'État, tous les fonctionnaires qui représentent l'État, qui offrent des services au public, de porter des signes religieux visibles.
Donc, on parle ici un peu les professeurs, par exemple.
Oui, ça s'applique aux juges, ça s'applique aux policiers, mais ça s'applique également aux professeurs et aux enseignants parce qu'ils sont considérés comme représentant l'État.
OK.
Maintenant, cette loi-là fait pas l'affaire de tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés contre en disant que ça allait faire une discrimination disproportionnée envers les femmes musulmanes particulièrement. On sait que ça peut également discriminer les hommes sikhs, mais c'est quand même un pourcentage beaucoup moins grand de la population québécoise. C'est vraiment sur les femmes musulmanes que le couperet tombe dans ce cas-ci, et c'est pour ça que cette loi-là a été accusée d'être une loi discriminatoire, d'être une loi injuste, et c'est pour ça que c'est des organisations de défense des droits des communautés musulmanes qui ont été les premières à monter la charge contre cette loi-là, qui sont allées essayer de la faire invalider en cours. Cependant, le gouvernement du Québec avait prévu la chose et avait invoqué la clause dérogatoire.
Qu'est-ce que ça veut dire, Guillaume, pour les gens comme moi qui connaissent moins ça?
Écoute, j'ai fait une seule session de droit, mais j'ai fait mon cours de droit constitutionnel. Et de ce que je me rappelle, la clause dérogatoire, dans le fond, c'est qu'il y a dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il y a certains droits et libertés individuelles qui peuvent, dans le fond, le gouvernement peut s'exclure d'avoir à respecter ces droits-là pour une certaine période de temps, une période de 5 ans qui doit être renouvelée à tous les 5 ans par un vote à l'Assemblée nationale.
Ça veut dire que le gouvernement du Québec s'est exclu de ça, donc il n'est pas obligé de les respecter.
C'est ça, il n'est pas obligé de les respecter. Il dit « c'est dans l'intérêt supérieur du Québec » de dire que ces droits-là, dans ce contexte-ci, pour cette loi-ci, pour les 5 prochaines années, on ne va pas, on va faire comme s'ils n'existaient pas.
Okay.
C'est pas on ne va pas les respecter, c'est juste on va pas s'exposer à des poursuites là-dessus. Si jamais quelqu'un veut nous poursuivre là-dessus, il peut pas le faire.
Okay,
il n'a pas le droit de le faire. Et ça a fâché le juge. Parce que, dans le fond, le juge Marc-André Blanchard a dit, grosso modo, que dans l'état actuel du droit, il n'a pas le droit de... Le juge n'a pas le pouvoir d'outrepasser la clause dérogatoire. Et donc, il ne peut pas condamner la loi 21 parce que il y a rien et tout ce qui pourrait dire qui est discriminatoire se retrouve dans les articles auxquels le gouvernement échappe.
Est-ce que ça veut dire que la cause est allée en cour supérieure pour absolument presque rien parce qu'il peut rien faire pour eux.
Ben, c'est à peu près ça. Et c'était l'objectif de la clause dérogatoire. C'était l'objectif de la clause dérogatoire, c'était que la loi puisse s'appliquer comme il le faut, comme le gouvernement le voulait.
Il avait prévu le coup, finalement.
Il avait prévu le coup. Cependant, le juge a cependant décidé que cette clause-là, que cette loi-là n'allait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones parce que dans la clause dérogatoire, elle ne couvre pas la clause qui dit que les... la minorité historique anglophone a le droit de conserver ses privilèges linguistiques. Ça, il n'y a aucune loi du Québec qui peut échapper à ça.
OK. Mais si on parle de linguistique, en quoi ça a le rapport avec les signes religieux et les voiles?
C'est exactement ça la question que tout le monde se pose présentement, incluant l'auteur de la loi et le ministre actuel de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, qui était... très fâché quand même. Il dit que il n'y a pas deux Québec. Il ne peut pas y avoir deux Québec. La loi doit s'appliquer équitablement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises. Il doit y avoir des valeurs communes. Il dit que le juge est présentement en train d'essayer de réécrire la Constitution.
Ouais.
Je le cite. L'article 23 qui a été écrit dans la loi constitutionnelle de 1982 vise les droits linguistiques, vise les ayants droit. Donc, ça ne vise pas... C'est du jargon un petit peu technique.
Difficile à comprendre.
C'est du jargon un petit peu technique, mais grosso modo, il dit « ça n'a pas rapport ». Ça n'a pas rapport. Tu utilises quelque chose de complètement externe pour venir défendre quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Ça n'a juste pas rapport à ce que tu es en train de faire. Et il n'est pas tout seul. Le premier ministre du Québec, François Legault, également est plutôt fâché. Il vous dit que ça n'a pas de bon sens de vouloir séparer le Québec en deux comme ça. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui aussi dit que c'est encore une fois une preuve que de rester dans le Canada, de rester dans le système juridique canadien, c'est se faire imposer de force le multiculturalisme canadien qui divise au lieu de réunir. La porte-parole de Québec solidaire a utilisé des mots plutôt... plutôt durs quand même. Je la cite. « Vous voulez faire respecter vos droits fondamentaux? Allez travailler en anglais. » Ouch, ça fait mal. On se rappelle que Québec solidaire est contre la loi 21. Pour sa part, le Parti libéral du Québec et sa chef, Dominique Anglade, ne sont pas ni pour ni contre.
Ils se prononcent pas trop, finalement.
Ils se prononcent pas trop. Par contre, ils ont dit qu'ils ne renouvelleraient pas la clause dérogatoire s'ils étaient au pouvoir. Et donc, ils laisseraient le gouvernement, ils laisseraient ça suivre son cours tranquillement et laisseraient, dans le fond, le système juridique passer à travers la loi 21 avec les nouvelles munitions qu'ils auraient. Donc...
Mais je comprends que ça dérange, parce que si tu dis oui à un, t'as pas le choix de dire oui à l'autre. Là, tu peux pas c'est comme donner un bonbon à un enfant, oui à toi, mais toi non. Pour quelle raison? Il y en a pas.
Voilà, et c'est pour ça que ça dérange, et c'est pour ça que le procureur général du Québec, qui adonne à être le ministre de la Justice du Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. donc, Simon-Jolin Barrette va... appelé en appel, en cour d'appel du Québec. Parce que la Cour supérieure du Québec, c'est la plus basse cour. Donc, c'est la Cour supérieure, puis la Cour d'appel, puis la Cour suprême du Canada. Donc, on s'en va en cour d'appel du Québec où est-ce qu'il y a trois juges qui vont devoir rendre une décision. Mais ils vont rendre une décision non pas sur le jugement au complet, mais uniquement sur ce qui fait appel. Et donc, ce qui fait appel dans ce cas-ci, c'est la séparation entre francophones et anglophones. Du côté des gens qui poursuivaient la loi 21, entre autres la Commission scolaire English Montreal, eh bien, eux autres se sont réjouis du résultat du procès. Par contre, ils risquent également de vouloir aller en appel pour que la loi 21 soit abolie à l'ensemble du Québec. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a vraiment pas fini d'en entendre parler.
Gros sujet quand même.
Oui, on peut en parler longtemps. On va prendre une petite pause publicitaire et musicale et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles à propos du procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd. Vous écoutez toujours Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental!
Incroyable! Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Même ton toughness!
Hockey, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse et pêche, et bien plus! Conduite Antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu sais, cet ami gossant qui, dans toutes les conversations, finit par dire « C'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. » Ben, la planète des sages, c'est cet ami en 3 exemplaires qui prennent 1 heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine, le mardi à 10h, on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la planète des sages à Chiz 94.3.
Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour à tous et à tous. Ben oui. Sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard au micro en compagnie de Laurie Bouffard. Et vous venez d'écouter Street Bang par Festoot. Et mon Dieu que c'était quelque chose.
C'était très bon. Très belle découverte.
Très, très bon. Merci beaucoup à la gang du Club Critique pour cette découverte. Ils vont être là à partir de 13h. Ils vont parler de CFCF, Born Ruffians et London Grammar. J'ai aucun doute que ça va être aussi excellent que ce qu'ils nous ont montré, que ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui comme nouveauté. Mais on va quand même rester dans notre émission à nous autres.
On n'est pas des spécialistes de toute façon.
On n'est pas des spécialistes. On va aller directement dans notre actualité. On va aller voir au Minnesota. Le procès de Derek Chauvin s'est terminé hier. Qui sait que c'est que ça que Derek Chauvin? C'est l'homme qui a été pris sur vidéo en train d'étouffer George Floyd, un Afro-Américain, pendant 9 minutes. 9 minutes où George Floyd était en train de répéter « I can breathe », en train de supplier pour sa vie, et il est mort là. Et donc, Derek Chauvin a été accusé, qui est un policier de Minneapolis, oui, a été accusé de meurtre non prémédité. Il a été également accusé de plusieurs autres...
On parle ici de meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire.
Oui, donc plusieurs accusations différentes, mais grosso modo, qui reviennent toutes au fait que c'est sa faute s'il est mort. C'est sa faute s'il est mort. Et c'est un procès qui a été largement médiatisé.
Et surtout très attendu.
Et surtout très attendu, parce qu'on se souvient que la mort de George Floyd, c'est ça qui avait été l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres l'été dernier pour partir toutes ces énormes manifestations Black Lives Matter à travers les États-Unis, pas seulement au Minnesota. Et là, c'est tombé, finalement, Derek Chauvin est reconnu coupable. On sait que ça a beaucoup fait réagir aux États-Unis, plusieurs réseaux conservateurs de droite, voire même d'extrême droite, qui disent que c'est une injustice envers les policiers, que Derek Chauvin faisait uniquement faire son travail et que les policiers devaient commencer à faire la grève. Mais de l'autre côté, beaucoup de gens se disent satisfaits, soulagés. Enfin, justice a été rendue, mais ce n'est qu'un premier pas. Ce n'est qu'un premier pas pour beaucoup. On a par exemple le sénateur démocrate Bernie Sanders qui a dit sur Twitter que la vraie justice ne pourra se produire que si nous construisons une nation qui respecte fondamentalement la dignité humaine de chaque personne. Donc on est vraiment dans une division profonde des États-Unis, Mais le président Joe Biden semble vouloir appeler à l'unité en disant ce qu'il a fait là, ce n'était pas normal, ça ne devrait pas être normal, c'était inacceptable. Et donc, on va lancer une enquête fédérale, savoir comment ça se fait qu'on est rendu là, comment ça se fait que la police a ces mesures-là, ces méthodes-là qui sont enseignées. Et donc, qui va lancer une enquête fédérale sur la police de Minneapolis. Et donc, il a appelé le pays, le président Joe Biden, a appelé le pays à se rassembler et à lutter contre le racisme qui entache son âme. Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George Floyd, mais la décision peut être le moment d'un changement significatif. Donc, c'est beaucoup d'espoir. C'est beaucoup d'espoir qu'il envoie.
Je pense que c'est temps qu'il y ait un changement significatif parce que ça fait vraiment trop de personnes qui vivent le même sort que George Floyd. Juste à penser, hier, en fait, le mardi matin, il y a une jeune adolescente noire, encore une fois, à Columbus, dans l'Ohio, qui a été tuée par balle.
Encore une autre. Encore une autre.
C'est une jeune fille de 16 ans, en fait... Il y a eu une altercation entre deux jeunes adolescentes et ça s'est fini par une balle. On pense à ça, nous, au Québec, là, ça se passerait pas de même.
Non, effectivement. Et le procureur de l'État du Minnesota a dit que George Floyd a donné sa vie pour que les dossiers d'Afro-Américains tués par des policiers blancs puissent être rouverts, parce qu'on sait que la plupart du temps, ces dossiers-là ne se soldent pas par des accusations et ne se soldent même pas par des condamnations. C'est très injuste. On voit vraiment le sentiment d'injustice qui est profondément ancré dans la communauté. Et c'est pour ça que c'est si important comme procès, parce que il y a eu une unanimité après 10 heures seulement de délibération de la part des jurés. C'est très rapide aux États-Unis. 10 heures, on s'attend à beaucoup plus long de la part des délibérations des jurés. Donc, 10 heures, ça a été très rapide. Ils n'ont donc pas accepté les arguments de la défense qui disaient que c'était la faute de George Floyd, qu'il avait des opioïdes dans le sang, qu'il avait résisté à l'arrêt. Beaucoup d'arguments qui avaient été utilisés, mais aucun qui n'a semblé convaincre les juges et les jurés. On va aller plus proche de chez nous, parce qu'on sait que ça a fait réagir, entre autres, à l'Assemblée nationale et la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre du Québec.
Geneviève
Guilbeault a annoncé qu'elle allait prendre acte de ça. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle allait prendre acte de ça et qu'elle avait un plan, elle aussi, pour assurer plus d'imputabilité de la part des policiers au Québec. On sait que les policiers au Québec, particulièrement le SPVM, le service de police de la ville de Montréal, ont été régulièrement accusés de profilage racial, de racisme systémique. La Sûreté du Québec, la SQ et la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, ont également régulièrement des problèmes de profilage racial, de racisme systémique envers les communautés autochtones. Donc, la ministre de la Sécurité publique a annoncé qu'il y aurait un projet pilote à Rimouski. Les policiers de Rimouski porteront bientôt des caméras corporelles. C'est Olivier Bossé dans Le Soleil qui nous apprend ça. Donc, il rapporte les propos de Mme Guilbeault qui dit « Sous peu, on annoncera le démarrage du premier projet pilote par la SQ qui devrait avoir lieu à Rimouski. Donc, normalement, autour du 26 avril, on devrait avoir l'annonce que débutera ce projet pilote. On devrait avoir 4 projets dans 4 endroits différents pilotés par la SQ. » Ça, c'est une bonne nouvelle, Laurie.
C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y avait plusieurs groupes qui avaient exprimé par le passé le souhait que les policiers soient munis de caméras corporelles pour filmer toutes les interventions. Aussi, c'est sûr que ça peut aider là, sur les versions de ce qui s'est vraiment passé. Donc, il y a aussi l'Association des policiers provinciaux du Québec qui avait fait la même demande en juin dernier, estimant que l'affaire George Floyd démontrait l'importance de déployer cette technologie-là, excusez-moi, dans mes mots, en va moins bien. Moi, je pense que c'est une bonne affaire.
Oui, c'est définitivement une bonne chose. C'est définitivement une très bonne chose. Parce que on a justement on a la possibilité de savoir, d'avoir une version plus objective de ce qui s'est passé, parce qu'on sait que les vidéos comme celle qui a été prise de la mort de George Floyd, pourquoi est-ce que ça a été si médiatisé, cette mort-là? C'est parce que ça a été pris sur vidéo par une adolescente de 17 ans qui était là, qui passait, qui a simplement sorti son cellulaire et qui a pris ça en vidéo. Cette preuve-là est contestable en cours. C'est pas la preuve qui est la plus utilisable. C'est difficile.
Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu de vidéo, peut-être qu'il n'y aurait eu aucune accusation, puis ça l'aurait été passé sous silence.
Oui, mais le point, c'est que c'est difficile. C'est une seule facette de l'histoire. Là, avec les policiers qui auraient des caméras corporelles, on aurait constamment le contexte complet. On sait que les policiers sont très fans d'utiliser, lorsqu'on montre des vidéos comme ça, de dire ben c'est pas le contexte complet, c'est pas toute l'histoire. Là, ce serait facile d'avoir accès au contexte complet, de voir toute l'histoire et de pouvoir plus facilement montrer aux juges et aux jurys qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Et idéalement, ce que ça mène à des accusations et aux condamnations de personnes qui font des gestes réprochables.
Je pense que ça faciliterait le travail pour la justice, pour les policiers, mais peut-être que ça ferait réfléchir certains policiers sur leur façon d'agir, parce que tu sais que tu es filmé en tout temps. Peut-être qu'il y en a qui vont penser plus à leurs agissements. Je pense que ça peut aller dans les deux côtés, ça peut être bon.
Oui, mais puis c'est l'objectif. C'est l'objectif au final. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite. On va rester dans le dossier du racisme systémique parce que il y a un projet de loi qui est présentement à l'étude à Ottawa, qui est un projet de loi qui vise à harmoniser les lois du Canada avec la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Cette déclaration-là, dont le Canada a longtemps été un des quatre seuls pays à ne pas l'avoir signée. Un des seuls quatre pays à ne pas l'avoir signée avec les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Quand même quatre pays économiquement.
Oui, mais quatre pays qui ont également beaucoup de problèmes historiquement avec leur peuple autochtone. Donc, ça peut se voir. Ça a été signé récemment, finalement, et sauf qu'au Canada, quand on signe un accord, il faut quand même passer une loi pour que ça fasse partie de nos lois. Il faut quand même que ça passe par un vote du gouvernement, un vote au Parlement.
Ça veut dire que le Canada a signé avec les Nations Unies, mais que c'est pas encore accepté globalement au Canada.
Non, c'est ça. Parce que la signature du premier ministre n'est pas suffisante pour avoir une loi. Il faut qu'il y ait un vote au Parlement. Sauf qu'on sait que présentement, le gouvernement du Canada, le gouvernement libéral, est minoritaire. Donc, il a besoin de l'appui des autres, d'au moins un autre parti, qui n'est pas le Parti vert parce qu'il y a juste trois sièges. Donc, il a besoin de l'appui soit du Bloc québécois, soit des conservateurs, soit du nouveau Parti démocratique. Sauf que là, le Parti conservateur pose une question qui est une question plutôt épineuse. Parce que le gouvernement, dans son projet de loi, dit que avant qu'il y ait des projets de développement industriel sur les territoires autochtones, il doit y avoir un consentement préalable donné librement et en toute connaissance de cause. Sauf que les conservateurs veulent savoir qui donne ce consentement-là, quand ils le donnent, et comment est-ce qu'on va reconnaître ce consentement-là? Donc, il n'y a pas de définition très claire de ce qu'est ce consentement-là. Et donc, pour l'instant, ça pourrait aller dans deux directions complètement différentes avec simplement cette clause-là. Ça pourrait vouloir dire que les Autochtones pourraient avoir un droit de veto sur l'ensemble des projets industriels, que ce soit des projets forestiers, des projets miniers, des projets de gazoduc. Ça, c'est vraiment pas ce que les conservateurs veulent. Eux autres, ils veulent avoir le plus de projets de développement économique possible.
Est-ce que ça veut dire qu'ils auraient le droit de veto seulement sur les projets qui sont faits sur leur terre ou sur tous les projets?
Sur les projets qui sont faits sur leur terre, sauf que la définition des terres autochtones au Canada étant très problématique, ça pourrait vraiment s'étendre à beaucoup de projets. Mais de l'autre côté, si c'est si mal défini que ça, le gouvernement du Canada pourrait simplement demander à un dude quelque part « Es-tu d'accord? » Il dit « Oui, parfait. » Et ensuite, il procède. Parce qu'on sait que pour des projets comme le projet du pipeline Keystone XL, le projet du pipeline Trans Mountain, il y a eu de l'opposition de la part des peuples autochtones. On peut penser aux Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, qui étaient eux-mêmes divisés sur le projet. Donc, il n'y a pas eu de consentement total, il n'y a pas eu de consentement global. Il y a eu un consentement d'un chef de bande, mais les chefs héréditaires, eux autres, n'étaient pas d'accord et c'est eux autres qui ont organisé les manifestations. Donc, ne pas définir clairement ce que veut dire le consentement ici, c'est donner beaucoup de pouvoir interprétatif au gouvernement du Canada et donc pas changer grand-chose au final. Ce qui est peut-être pas ce qu'on voudrait.
Complexe tout ça, Guillaume.
Écoute, je t'amène des sujets simples aujourd'hui.
Une chance que tu es là pour m'éduquer.
Oh, dis pas ça de même. On va rester au Canada, on va rester au gouvernement fédéral, mais ça nous touche vraiment très directement ici au Québec parce que la Banque du Canada conserve son taux directeur de 0,25 %.
ce qui est le plus bas.
Ce qui est le plus bas ou à peu près. Qu'est-ce que c'est que ça que le taux directeur, Laurie? Je le sens dans tes yeux, tu te poses la question. Le taux directeur, c'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles de l'argent quand il n'y en a pas assez dans leur coffre. C'est donc, grosso modo, l'indicateur des taux d'intérêt à travers le Canada. Donc, plus le taux directeur est bas, plus les taux d'intérêt, les taux d'emprunt vont être bas. Plus le taux directeur est haut, plus les taux d'intérêt vont être hauts. Qu'est-ce que ça fait, un taux d'intérêt très bas? C'est quoi l'impact principal que ça va avoir? C'est que c'est fait pour stimuler l'économie, pour encourager les ventes le plus possible, pour donner accès au crédit le plus possible aux Canadiennes, aux Canadiens. Le problème, c'est que ce que ça a comme effet, ça, de vouloir stimuler l'économie comme ça, c'est que ça fait hausser le prix des maisons. Ça fait hausser le prix de l'immobilier parce que les gens ont accès à plus de crédit et donc les gens vont se dire « Ah, ben je peux acheter une maison qui est un peu plus chère. »
Un peu plus chère, ben oui, parce que tu as accès à l'argent, mais finalement, pas tant que ça.
Pas tant que ça, parce que c'est de l'argent que tu empruntes, c'est de l'argent sur lequel tu t'endettes. Et c'est pour ça que cette décision-là est décriée par plusieurs. On sait qu'en ce moment, au Québec, on vit une grave crise du logement. On le voit à Montréal. On le voit à Montréal, c'est incroyable.
Juste trouver un logement, les surenchères, les ventes de maisons aussi, qui la plupart des maisons se vendent des fois à 20, 30, 40, 50 000 au-dessus du prix demandé par le vendeur, ce qui fait que l'accès est pas facile. On s'entend que dans les dernières années, c'était plus « Ah, la maison est à 200 000, je suis capable de la négocier un peu. » Mais on n'est plus là, vraiment.
Non, on n'est vraiment plus là. On n'est vraiment plus là. Le marché immobilier à Vancouver, à Toronto aussi, a complètement explosé. C'est pas rare de trouver des maisons au-dessus d'un million de dollars à Toronto. Et les personnes que ça touche le plus, c'est les familles, c'est les jeunes familles, les familles qui ont des revenus d'appoint, qui ne sont pas toujours capables de faire joindre les deux bouts. Il y a effectivement à Montréal un taux d'inoccupation très élevé au centre-ville, mais c'est dans des condos de luxe, c'est pas dans des 5,5, 6,5.
C'est moins accessible à une petite famille, 3-4 enfants avec des parents qui ont des salaires moyens.
C'est ça, c'est pour ça que ce taux directeur-là qui reste très bas, qui ne sera pas rehaussé, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les personnes qui se cherchent un logement présentement.
Pour vrai, je suis vraiment contente que tu nous en parles et que tu nous l'expliques, parce que moi, j'avais plus vu ça du fait « Ah, les taux sont bons, donc les gens vont être capables de s'acheter des maisons. » Mais c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que la Banque du Canada, son taux directeur, le problème, c'est que c'est un seul outil qu'elle a, sauf que ça a des effets sur beaucoup de choses. Parce que oui, l'économie est présentement, tourne au ralenti présentement à cause de la pandémie et a besoin qu'on l'aide, a besoin d'un coup de pouce. Mais en même temps, le marché de l'immobilier est en surchauffe. Donc, la Banque du Canada ne peut pas à la fois dire « je vais rehausser les taux d'intérêt pour faire baisser le marché immobilier et je vais les abaisser pour rajouter de l'argent dans l'économie ». C'est très difficile d'essayer de faire un équilibre entre les deux. C'est toute une question de choix. Parlant de choix public, ça va être notre dernier sujet pour aujourd'hui. On va parler, encore une fois, un de nos sujets préférés, sujet dont on parle souvent. On va parler de transport en commun à Québec.
Lequel transport? Attends, je vais y penser. Le tramway, Guillaume?
Non, même pas de tramway. Non. Même pas de tramway pour une
vrai,
fois.
Tu me surprends cette semaine.
Je te surprends cette semaine parce que le gouvernement du Québec a annoncé 844 millions de dollars pour desservir les banlieues de Québec.
Juste un peu d'argent, ça.
C'est un peu d'argent. On sait que le budget du tramway, c'était de 3 milliards de dollars. Donc, c'est à peu près le quart du budget du tramway qu'on met là-dedans. Un peu plus du quart du budget du tramway qu'on rajoute sur le côté pour augmenter le transport en commun dans les banlieues de Québec, particulièrement dans les banlieues nord de Québec, qui ne seront pas desservies par le tramway. On sait que c'était un des arguments massifs des opposants au projet de tramway. Oui, bon, d'accord, j'en parle un peu.
C'était certain.
Mais là, on veut essayer de le compléter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement du Québec va rajouter plus de 100 kilomètres de voies réservées à travers la capitale nationale pour des autobus. Donc, ce seront des voies rapides, particulièrement sur les autoroutes. Sur l'autoroute Laurentienne, Robert Bourassa, Félix Leclerc et Henri IV, ils auront toutes voies réservées pour les autobus, mais qui devraient également être disponibles au covoiturage à partir de 2 ou 3 personnes, ainsi que aux voitures électriques et hybrides branchables et aux taxis. Donc, ce sera un autre moyen. C'est un autre moyen d'encourager un transport plus collectif, un transport plus durable pour la Ville de Québec et d'améliorer la circulation. Le ministère des Transports du Québec, le ministre François Bonnardel, qui en a fait l'annonce, a assuré qu'on allait retirer aucune voie aux automobilistes. Et c'est pour ça que ça coûte si cher. C'est parce qu'on va élargir toutes ces autoroutes-là. On va rajouter des voies supplémentaires.
Donc, ça brime personne. C'est juste bon pour tout le monde.
C'est bon pour tout le monde, ça ne brime personne, c'est exactement ça. Les automobilistes de Québec qui peuvent parfois se dire « touche pas à mon char », exactement cette voix-là.
Exactement la même voix.
Exactement cette voix-là. Ne peuvent pas dire qu'on leur ôte quelque chose, c'est vraiment en surplus. En fait, on retire des voitures sur la route, on améliore la fluidité du trafic. C'est un bon projet. C'est un bon projet, c'est une bonne nouvelle qui est bien accueillie par beaucoup de gens, entre autres le maire de Québec, qui dit que c'est une bonne étape et c'est une bonne, c'est un bon préambule à une deuxième phase du tramway.
Clairement que M. Labombe n'allait pas s'arrêter à « c'est une bonne chose
». Non, non. Et aussi, ce ne seront pas uniquement sur des autoroutes qu'auront lieu ces élargissements, okay. Ce sera également sur différentes voies municipales, le boulevard Robert Bourassa, le boulevard Pierre-Bertrand, la Première Avenue, la rue Seigneuriale, la rue Clémenceau, le boulevard Charest, tout ça va être élargi pour avoir plus d'accès aux autobus, aux transports en commun, ainsi qu'au covoiturage. C'est donc une très grosse nouvelle pour le transport collectif dans la capitale nationale. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir été avec moi pour cette heure d'actualité.
Ça m'a fait plaisir. En espérant qu'en sortant, il n'y ait pas trop de neige, hein, parce qu'il annonce comme 30 cm de neige.
Oh non!
Sur certaines régions du Québec, j'espère que ça ne sera pas le cas tant que ça.
J'espère que ce ne sera pas le cas tant que ça ici. Merci beaucoup. On va vous laisser, chers auditeurs, chères auditrices, dans des mains expertes du Club Critique, Émilie, Guillaume et Gabriel qui vous attendent. Tout plein de nouveautés, tout plein de nouveautés. Et on va vous laisser avec une pause musicale et ensuite on va aller écouter Fantôme par Ipiura. C'était Guillaume Bédard et Laurie Bouffard sur Les Affamés, sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Schiste 94.3.
Et